Profitez d'une retraite paisible dès votre entrée dans la vie active avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Leurs noms sont parfois complexes à prononcer. Trichocéphale, ankylostome, il faut bien s'arrêter sur chaque syllabe, anguillule, ascaris ou plus simplement les plus connus, Oxur ou Ténia, des parasites intestinaux qui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, concerneraient près d'1,5 milliard de personnes sur la planète. Dans certains cas, l'infestation va provoquer des symptômes ponctuels, mais la présence de ces vers intestinaux peut aussi causer des affections plus sévères en atteignant des organes comme le foie ou les poumons. Dans certaines régions du monde, cette contamination parasitaire entrave le bien-être, la croissance de plusieurs millions d'enfants, notamment ceux qui sont déjà menacés par la malnutrition. Nous le verrons au cours de cette émission, la lutte contre ces parasites intestinaux passe par plusieurs pistes, vermifuger comme le recommande à grande échelle l'OMS, traiter mais également améliorer l'hygiène de base, l'éducation sanitaire, l'assainissement, car une fois de plus, il faut constater l'inégalité géographique et sociale face à ces affections. Alors si vous êtes concerné, si vous voulez témoigner, poser une question, appelez-nous le numéro de Priorité Santé 33 1 84 22 75 75. Diagnostic, traitement, prévention des parasites intestinaux. En studio avec nous, professeur Areski Izri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Et tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Hervé Ménan, chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Professeur Ménan, qui est aussi vice-président de la Société africaine de parasitologie. Et en fin d'émission, on va rejoindre au Sénégal le docteur Mariem Soda Diop Sen, neurologue, épileptologue, neurophysiologiste à l'hôpital FAN de Dakar. Avec elle, on va faire le point sur le programme scientifique des journées de neurologie de l'Association sénégalaise de neurologie, journée qui s'achève aujourd'hui.
Priorité santé sur RFI.
Alors professeur Izri, on va aborder dans quelques instants notre sujet du jour, parasites intestinaux. Mais pour commencer, votre éclairage sur un autre type d'infestation qui intéresse en ce moment en France les politiques. Hein. Oui, les politiques, il s'agit des punaises de lit. Alors comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. Le ministre chargé de la ville et du logement a en effet lancé un plan de prévention et de lutte contre ces insectes, professeur Areski Izri. Alors, comment expliquer l'irruption de ces petites bestioles dans, il faut le dire, la campagne électorale, puisque ce sont les élections municipales du mois de mars qui s'annoncent? Pourquoi on parle aujourd'hui de ces fameuses punaises de lit?
On parle beaucoup des punaises de lit aujourd'hui parce qu'elles infestent pratiquement tout le monde, les immeubles, les hôtels, les hôpitaux, les moyens de transport, les EHPAD et puis évidemment tout le privé. Quoi.
Professeur Areski Izri, pourquoi justement aujourd'hui cette recrudescence? On va dire qu'au début on avait signalé cela dans des îlots, c'était limité à certains sites. Aujourd'hui ça s'étend, comment on l'explique?
Alors les punaises de lit reviennent depuis deux décennies à peu près en France. Avant on les croyait disparues, mais parce qu'on avait beaucoup utilisé les insecticides, mais elles sont devenues résistantes aux insecticides, et donc elles prolifèrent. Et puis aussi parce que nous voyageons beaucoup, et la France est un pays touristique, le premier pays visité au monde. Hein. Donc les punaises voyagent avec nous, et bien elles en reçoivent. On reçoit autant de punaises hein, que ça. Chez nous, elles passent très facilement d'un logement à l'autre. Elles voyagent très facilement dans nos bagages, c'est-à-dire que si vous faites un petit cadeau, que vous avez des punaises, vous pouvez en donner. Vous allez à l'hôtel, vous passez une nuit à l'hôtel, vous revenez avec des punaises dans votre valise, vous allez prendre une location quelque part, s'il y a des punaises, vous en ramenez. Et puis, s'il n'y en a pas et c'est vous qui en emmenez, vous les laissez sur place, ça se dissémine très très vite.
Alors, comment on reconnaît non seulement les insectes, mais peut-être surtout les piqûres?
Alors, les punaises de lit portent bien leur nom. C'est des insectes qui piquent la nuit dans le lit. Elles sont dans le matelas, voire dans le canapé éventuellement. Et on est piqué la nuit, on se réveille le matin avec des boutons qui nous grattent, qui nous démangent. Et puis très souvent, ces boutons sont alignés. Il y a 3, 4, 5 boutons sur la même ligne, parfois regroupés. Mais c'est assez caractéristique. Vous vous réveillez le matin, vous avez des boutons, vous vous grattez.
Il n'y a pas des zones de prédilection comme certains insectes qui aiment les zones humides, les zones chaudes. Là, c'est sur l'ensemble du corps.
Ça pique surtout les zones découvertes, c'est-à-dire les bras, les jambes, le visage, le cou. Mais il y a des gens qui dorment tout nus, ils sont piqués sur tout le corps.
Alors en termes de sévérité, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est davantage l'impact psychologique et nerveux ?
Je crois que l'impact psychologique et nerveux est très important chez quelques personnes, pas chez tout le monde. Sinon, la gravité de la piqûre en elle-même. Bon, il y a des gens qui ne sont pas du tout allergiques aux piqûres de punaises de lit. Il y a au moins 30% des gens piqués qui ne font même pas un bouton. D'autres réagissent, c'est une question d'allergie. Il y en a qui sont allergiques, faiblement allergiques, qui font des petits boutons. D'autres qui sont fortement allergiques, ils peuvent avoir de gros boutons. Il y en a qui sont très fortement allergiques, qui feront voir jusqu'à un choc anaphylactique.
Ouais, donc on peut faire attention pour certains cas. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est le traitement. Qu'est-ce qu'on peut préconiser, professeur Isery, pour s'en débarrasser ?
Alors aujourd'hui, il est évident que les punaises de lit sont devenues résistantes à tous les insecticides. Donc, pas question d'utiliser les insecticides. Pire, quand on utilise les insecticides, c'est-à-dire les pesticides, c'est-à-dire les neurotoxiques, on s'intoxique soi-même, c'est pas bon pour l'environnement, et on ne tue pas les punaises. Quand on applique le produit, ça irrite un peu les punaises, elles se disséminent partout dans la maison, voire dans l'immeuble.
Donc ça aggrave le problème.
C'est contre-productif. Donc il faut agir autrement. Agir autrement, c'est quoi ? C'est mécanique, c'est des petits insectes. Il faut aller les détruire. Par exemple, dans les tissus, c'est pas compliqué. On peut les laver à 60 degrés, ça marche très bien. On peut les passer simplement au sèche-linge avec un long programme prêt à ranger. Ça marche formidablement bien. Après, on peut passer l'aspirateur, ou je dirais dans le même temps, si j'ose dire. On peut passer l'aspirateur et puis ramasser tout de suite le sac et le jeter à la poubelle aux ordures ménagères. Et ensuite, aller les détruire à la chaleur sèche. Malheureusement, nous ne disposons pas de beaucoup d'appareils capables de donner une chaleur sèche assez importante, 70, 90 degrés, pour les détruire.
Alors, on en revient à présent à notre sujet, les parasites intestinaux. Certains sont connus du grand public. En fait, bien sûr, ça dépend des régions du monde. Le nom d'autres espèces sont propres vraiment à certains pays, voire à certaines conditions de vie. On va peut-être, pour commencer, distinguer d'un point de vue biologique des organismes différents, ceux qui sont invisibles à l'œil nu. On parle de cellules unique, là on ne parle pas de vers mais bien de parasites, et puis les autres, ces vers intestinaux, on a deux choses donc différentes peut-être entre ce qu'on va désigner plutôt comme d'un côté les amibes, pour être schématique, et puis de l'autre les oxures.
Oui, donc les amibes font partie des protozoaires, il y a beaucoup de protozoaires qu'on peut retrouver au niveau de l'intestin, si on parle que de l'intestin, et de l'autre côté on a des vers, mais alors les vers c'est complexe aussi, si les protozoaires, il y en a beaucoup, les vers encore plus. On a les vers ronds, on a les vers plats, les cestodes, les trématodes. Et là, c'est très compliqué, mais tous peuvent se retrouver dans l'intestin.
Alors, plutôt qu'un véritable inventaire, on peut aussi distinguer le mode de contamination par la bouche ou par la peau.
Voilà. Alors, si les protozoaires, on les attrape toujours par la bouche, les vers, par contre, il y en a la majorité... s'attrape par la bouche quand on avale les œufs, mais d'autres passent à travers la peau. C'est le cas, par exemple, des anguillules ou des ankylostomes.
Et en termes de fréquence, vous, en consultation, on l'a dit, vous êtes en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Quelles sont les infestations que vous êtes amené à traiter le plus souvent ?
Oh, je crois que maintenant, en France, il y a très peu de vers, très peu de protozoaires. Mais bon, on a encore... pour les vers, les oxyures, qu'on retrouve assez fréquemment, qui touchent à peu près toutes les écoles en France. Et puis, parmi les protozoaires, il y a les giardia, qui infestent pas mal les crèches et puis les écoles aussi.
Et quand on étudie la parasitologie, professeur Isery, est-ce que certains parasites sont d'emblée plus dangereux et peuvent amener des affections plus sévères que d'autres. Est-ce qu'il y a en fait vraiment des parasites à éviter ?
À éviter, j'aimerais bien.
Seulement, il faut savoir comment le faire.
Voilà, c'est pas évident. Mais c'est vrai que parmi les protozoaires, vous avez les amibes pathogènes. Antameba histolytica histolytica, pour ne pas vous donner le nom.
Je ne répéterai pas, je vous laisse le faire, c'est bon.
Voilà, mais heureusement, on n'en trouve pas en France, hein. Il n'y a pas de cas autochtones. Et puis, parmi les vers, eh ben, vous avez plusieurs vers qui peuvent être méchants. Je citerai les anguillules. Quand quelqu'un est sous corticoïde, les anguillules, ça peut être mortel. Je dirais les ankylostomes, quand il y a une infestation massive, on peut avoir une anémie sévère. Le kystidatique, c'est aussi la larve d'un ver et plein d'autres.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants, professeur. Tout de suite, un témoignage dans Priorité Santé. Et c'est peut-être l'un des parasites dont le nom est le plus connu du grand public en France, hein, le fameux ver solitaire, le ténia, ver plat qui a contaminé Claire. Elle était alors adolescente et elle s'en souvient, elle s'est confiée au micro de Raphaël Constant.
J'avais 12 ans, j'étais très fatiguée, ce qui n'était pas très normal chez moi. J'étais une petite fille assez active et tous les soirs, en fait, que ce soit en rentrant de l'école ou en rentrant de mes activités sportives ou culturelles, je rentrais et je faisais la sieste et je me réveillais pour 19h. Ça a duré à peu près 6 mois. Et puis un jour, je m'aperçois que dans mes selles, il y a des trucs blancs qui remuent. Donc là, je dis trop rien la première fois, la deuxième fois, puis la troisième fois quand même, j'alerte ma maman. Et ma maman vient voir et elle dit « Ah oui, en effet, c'est pas normal ». Et donc là, maman a appelé le médecin. Le médecin a demandé à ce que on fasse analyser ses selles. Et il s'est avéré que j'avais le ténia, dit le ver solitaire.
C'est un ver qui se développe dans l'intestin grêle.
Tout à fait. Et c'est un ver qui peut prendre beaucoup, beaucoup de place, puisque le mien, le médecin l'avait évalué à peu près à 8 mètres. Alors, chez certaines personnes, ça peut les faire maigrir. Moi, ça ne m'a pas fait maigrir. Mais en revanche, j'étais très fatiguée, parce qu'en fait, ça se nourrit de vitamines, de tout ce qui fait qu'on a de la force et de l'énergie. Et moi, je ne pensais qu'à manger, des sucreries. Je grossissais pas, mais je ne maigrissais pas non plus.
Et vous parliez d'une grande fatigue, d'un appétit développé. Pendant combien de temps ces symptômes ont persisté ?
Je pense environ 1 an. J'avais 12 ans, j'étais déjà très grande. Pour mon âge, j'étais grande. Maman s'est dit, c'est sa croissance, elle se développe, elle est fatiguée, c'est normal. Elle mange comme 4, c'est normal.
Rien d'alarmant pour une adolescente.
Exactement, rien d'alarmant. Alors, elle me donnait des vitamines. Enfin, les vitamines, ça nourrissait bien évidemment le ver solitaire. En fait, il prenait tellement d'importance dans mon intestin, le médecin a dit qu'il se désintégrait. Il n'y avait pas assez de place pour qu'il se développe bien. Donc, de lui-même, il se détachait. Et en fait, heureusement qu'on s'en est aperçu, parce que je sais qu'il y en a qui sont hospitalisés pour ça. Moi, je n'ai pas été hospitalisée.
Et donc, à ce moment-là, vous constatez la présence de ver dans vos selles. Qui est-ce que vous avez consulté ?
Ma maman a immédiatement appelé notre médecin généraliste qui, lui, a prescrit donc de faire analyser ses selles au laboratoire. Et lorsque on a eu la réponse que c'était un ténia, eh bien là, le médecin m'a prescrit des comprimés à sucer matin, midi et soir. Je m'en rappelle très bien parce que ça avait un goût vraiment dégoûtant. Et je me disais, mais mon Dieu, je vais vomir à chaque fois que je vais sucer ce petit bonbon. Et ce goût dans la bouche, c'était ignoble. Et ensuite, le ver a disparu dans mes selles. Et là, au lieu d'avoir 2-3 petits bouts, j'avais beaucoup plus de boue dans mes selles. Et du coup, je pense que ça a disparu en 2-3 semaines.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant, professeur à Resquizery. On vous retrouve. Cette fatigue dont parlait ce témoin Claire, fatigue associée à la présence d'un ténia, c'est un symptôme fréquent ?
Oui, avec les ténias, c'est fréquent. Hein. Avec beaucoup de vers aussi d'ailleurs, parce que l'organisme réagit en fabriquant des globules blancs un peu particuliers, ce qu'on appelle les éosinophiles. Et quand on a une forte éosinophilie, c'est le cas avec les ténias, on est très fatigué. C'est vraiment le principal symptôme.
Et à l'inverse, d'autres infestations, tout à l'heure vous parliez des oxures, hein, ces petits vers blancs, notamment chez les enfants, peuvent être accompagnés de difficultés à dormir, d'énervement. Quel lien justement entre cet état d'énervement et la présence de ces vers ?
Ça, c'est pas très clair, je sais pas très bien pourquoi, mais c'est vrai que les enfants qui ont des oxyures sont très agités, surtout le soir, peut-être parce qu'il y a un ver qui chemine dans leur intestin, et surtout parce que la femelle du ver, elle vient au niveau de l'anus, elle s'accroche, elle mord l'anus, elle mord. Et ça fait mal, ça irrite, et donc effectivement, il est très agité, et ça explique très probablement les cauchemars aussi qu'il fait.
Alors, tout à l'heure, en début d'émission, je citais des contaminations qui peuvent avoir des répercussions assez sévères pour la santé, hein, santé notamment du foie, des poumons. De quel type de vers s'agit-il, professeur Isri ?
Alors, il y a beaucoup de vers qui peuvent passer par le foie, mais il y a des vers qui parasitent carrément le foie. Mm-hmm. Ce sont par exemple les douves, la douve du foie, elle est connue. Hein. Il existe encore un petit foyer en France métropolitaine. C'est un ver qui peut faire aller un ver plat qui peut faire 2-3 cm de long et qu'on retrouve au niveau des canaux biliaires, au niveau du foie. C'est quelque chose d'assez méchant, effectivement.
Et pour ce type spécifique de parasite, quel traitement préconiser ?
Alors, il y a des traitements tout à fait adaptés au ver. C'est par exemple le biltricide, qu'on appelle aussi le praziquantel, qui donne d'excellents résultats pour beaucoup de vers.
Alors, on va revenir sur les traitements, mais aussi sur surtout peut-être les conseils en termes de prévention, professeur Areskizri, en répondant aux questions des auditeurs et auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs est en Côte d'Ivoire, c'est Achille qui est à Abidjan. Achille, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y. Le professeur Areskizri est à votre écoute.
Bonjour professeur.
Bonjour.
J'ai été victime de diarrhée depuis plusieurs années, due à des parasites, à des vers. Et après un traitement de anti-parasitaire, chez le médecin, la santé est venue. Alors, je voudrais savoir comment faire la différence entre une diarrhée qui est due à des bactéries et une diarrhée qui est due à des vers intestinaux.
C'est une question qui revient chez pas mal d'auditeurs, justement, distinguer, on va dire, des troubles digestifs d'une infestation parasitaire.
Alors, il faut savoir que la plupart des parasites intestinaux ne donnent pas de diarrhée. Donc déjà, c'est rare qu'il y ait une diarrhée. Les diarrhées sont très souvent dues à des bactéries ou plus à des virus. Les parasites qui peuvent donner une diarrhée chez l'humain, c'est d'abord les giardia, c'est des protozoaires, des tout petits êtres minuscules. Ça donne des diarrhées pas franches, c'est pas une diarrhée liquide, c'est plutôt des selles molles qui se répètent, elles sont fétides, c'est très désagréable, ça vous donne des coliques, vous avez mal au ventre, vous avez une douleur qu'on dit épigastrique, c'est-à-dire juste sous le sternum, c'est très désagréable. Et puis chez les enfants, ça peut avoir un retentissement important sur leur développement. Voilà, donc vous voyez, il y a très peu. Alors vous avez les amibes dont je parlais tout à l'heure, l'amibe pathogène, qui peut donner tout à fait au début de l'infestation une diarrhée, et puis des douleurs abdominales assez méchantes, assez sévères, avec des types de coliques, des envies pressantes d'aller aux toilettes, etc. Mais rapidement, ce n'est plus une diarrhée franche. C'est surtout quand on a envie d'aller aux toilettes, eh bien, il n'y a presque rien qui sort, sinon un peu de sang, avec beaucoup d'air, c'est spumeux comme on dit, Voilà, sinon, il n'y a pratiquement pas de diarrhée avec les parasites.
Achille, vous avez été assez vague, vous avez dit « j'ai pris un antiparasitaire ». Est-ce qu'on avait identifié précisément la nature du parasite qui vous embêtait ?
Et déjà, c'était un peu compliqué parce que c'était sans les amis. Ici, la population font défaut, donc les médecins y vont par présomption très souvent.
Ça veut dire que, par exemple, Achille, il n'y avait pas eu d'analyse de sel ?
Il n'y a pas eu d'analyse de sel. Mais il a profité parce que j'avais déjà fait des traitements antidiarrhéiques pendant longtemps. Mmh. Et donc, cette fois-ci, il est parti avec de l'albendazole.
Et justement, ce traitement, professeur Isri, l'albendazole, c'est prescrit pour quoi spécifiquement ?
Alors, l'albendazole est un produit qu'on donne pour beaucoup de vers, hein, pour lutter D'accord. contre beaucoup de vers. Donc, c'est un bon médicament, mais pas toujours bien toléré au niveau digestif.
Eh bien, voilà pour cette réponse. En tout cas, Achille, on vous remercie beaucoup hein, pour cette question. Très bonne journée à Abidjan. On part pour le Congo, pour Brazzaville, avec Marielle qui a une question à poser. Bonjour Marielle.
Bonjour.
Nous sommes à Bonjour. Votre écoute, allez-y.
Oui, j'ai un problème des vers intestinaux. Mm-hmm. Souvent, je pense que j'ai le ventre qui gargouille, mm-hmm. Manque d'appétit, nausée. Bon, dernièrement, c'est aller voir un médecin qui m'a mis sous traitement de vermifuge.
Oui.
Voilà. Donc, il m'a dit que c'est deux fois l'année. Mmh. Donc, vous prenez ce traitement. Chaque six mois, vous reprenez le traitement. Mmh. Alors, je constate que les mêmes symptômes reviennent avant la date des séances.
D'accord.
Donc, j'aimerais savoir si un traitement définitif pour ces vers intestinaux qui nous rendent toutefois mal à l'aise.
Est-ce que justement, Marielle, le médecin a donné le nom de ces parasites précisément, le nom de ces vers intestinaux ?
Non, il ne m'avait pas donné le nom.
Il vous a juste dit, vous avez des vers intestinaux, c'est tout ?
Oui.
Oui, alors ce dont se plaint Marielle, c'est que son médecin lui a prescrit un médicament pour une période de 6 mois et ben, qu'elle est à nouveau incommodée bien plus tôt que cela, vers 3 mois. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Ben, je vois l'âge de Marielle, hein, puisque il est noté, c'est une adulte. Les adultes ont très, très peu de vers ou rarement des vers au niveau de l'intestin. Le traitement vermifuge, oui, ça rend bien service. Mais on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas fait un diagnostic précis. Si vous voyez un ver, là c'est facile, hein. Si mm-hmm. c'est un ascaris, un ver qui est assez grand, qui fait à peu près 20 cm, il sort tout seul, là on peut traiter, il y a un seul traitement, il est efficace, il marche très bien. Mais les autres vers, on ne les voit pas trop, ils sont petits. Tout petits, on ne voit que des œufs parfois dans les selles. Hein. Donc je ne crois pas qu'il y ait une nécessité de refaire un traitement avant d'avoir un diagnostic de certitude.
L'analyse, elle passe par quel examen précis ?
Examen de sel. Examen parasitologique des selles. Et non pas une coproculture, simplement.
On a bien compris. Ouais. Alors, Marielle, est-ce que vous avez les moyens, je dirais tout simplement, les moyens matériels et financiers de procéder à cet examen de selles pour une recherche de parasites ?
Oui.
Donc voilà, en fait, avant de reprendre un quelconque médicament, bien savoir avec précision de quoi vous souffrez, comme vous l'a conseillé le professeur Isri, pour prendre vraiment le traitement adéquat.
Je vous ajouterai juste une chose, Marielle, c'est que les médicaments que l'on prend comme ça, sans une certitude de diagnostic, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Tous les médicaments peuvent perturber la flore intestinale, et donc donner ensuite des ballonnements, des douleurs. On a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'intestin alors qu'il n'y a rien. Au contraire, c'est parce qu'on a détruit la flore.
On a créé de l'inconfort intestinal.
Voilà.
Voilà Marielle pour ce conseil. On vous souhaite une excellente journée à Brazzaville. On reste à Brazza puisque c'est Martin qui est avec nous. Martin, bonjour.
Bonjour madame.
Le professeur Areski Isri est à votre écoute. Allez-y.
Bon, il est un matin... Je me suis réveillé, passé à moi la symptôme, la nausée, vomissement, lâchement
répétitif. Je vous entends très mal, Martin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher vraiment du téléphone ? Et en fait, je vais vous demander quelque chose d'un petit peu rude, mais j'y vais. Allez droit au but parce qu'on vous entend pas très bien. Allez-y.
Je suis au téléphone, je suis bien placé.
Voilà, très bien. Alors, expliquez-moi bien.
Oui, il était un matin, je me suis levé de mon lit, j'ai constaté à moi des symptômes. Comme c'est la nausée, vomissement, diarrhée, mis appétit et lassement et répété des. Il fallait que j'emprunte le chemin de ça.
On n'entend vraiment pas. Je suis navrée, Martin. On a préparé tout à l'heure l'émission avec vous. On avait cette fois-ci réussi bien à vous entendre, à recueillir votre parole. Hein. C'est ce qu'a fait Louise tout à l'heure. Et vous lui avez expliqué justement que vous étiez au matin avec des nausées, des vomissements. Et on vous avait dit que c'était des gaz. Aujourd'hui, vous êtes le papa de plusieurs enfants et ils sont régulièrement contaminés. Vous leur faites suivre donc un traitement, vous les faites, on va dire, déparasiter plusieurs fois par an. Et justement, votre question porte sur les conseils pour prévenir justement ces contaminations, ces conseils qui sont très importants. Professeur Areski Isri, on va dire qu'une nouvelle fois, ce sont les règles de base de l'hygiène, mais bien sûr quand on a une eau propre.
Tout à fait. Justement, c'est la question à poser à Martin. Est-ce qu'il a l'eau courante? Est-ce que il y a une évacuation des déchets? Est-ce qu'il y a des égouts, en quelque sorte? Parce que là, vous mettez aussi qu'on vous a diagnostiqué des oscaris, des anguillules, des ankylostomes, des oxyures. Enfin, c'est une
tout,
révision
oui.
de la parasitologie. Hein. Donc, je ne sais pas si vraiment ce diagnostic est confirmé ou pas. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une alimentation souillée et que l'environnement également est souillé puisqu'il y a des ankylostomes qui pénètrent à travers la peau. Donc, c'est tout l'environnement qui est souillé. Hein. Donc, ça, c'est des mesures d'hygiène à prendre rapidement pour vous et surtout pour vos enfants.
Ankylostome, ça passe par la peau des mains, la peau des pieds?
Des pieds en général, quand on marche pieds nus sur un sol humide ou boueux.
Donc, c'est pour cela qu'on conseille, même si on a des claquettes au minimum, hein, de ne pas se promener les pieds nus sur des sols qui ne sont pas propres.
Ah, c'est sûr que les claquettes ne nous protègent pas contre
pas
les ankylostomes.
Non, c'est pas suffisant. Donc, il faut passer à des chaussures fermées.
Oui.
Et on va dire peut-être surtout pour, y compris les enfants, quand ils sont un petit peu à quatre pattes par terre, ça peut aussi rentrer par d'autres zones de la peau.
Absolument, mais je crois que les enfants...
C'est difficile.
Là-bas, c'est plus difficile.
C'est beaucoup plus difficile. Voilà, en tout cas, des mesures quand on se lave les mains, bien sûr, avec du savon, c'est très important. Également, des recommandations en matière de cuisson, peut-être. La cuisson de la viande, est-ce que c'est finalement assez marginal? Est-ce que c'est davantage une souillure, par exemple, par le lavage avec une eau impropre des légumes? Comment ça se passe?
Voilà, ce sont des légumes très souvent insuffisamment lavés ou lavés avec une eau souillée. Et puis, les mains sales. Parce que si on a les mains sales et qu'on mange des aliments crus, pas cuits, les légumes, la salade, je ne sais quoi, le pain même, eh bien on peut se contaminer comme ça. Donc décontaminer l'environnement, se laver les mains, bien cuire les aliments.
Voilà pour ces conseils pour Martin et pour sa famille. On part pour le Bénin, pour Cotonou, rejoindre Bernard. Bonjour Bernard.
Caroline, bonjour.
Allez-y, posez votre question, le professeur Isri est à votre écoute.
Okay, bonjour, professeur.
Bonjour.
Ma question de savoir, j'avais une petite nièce qui était restée avec nous il y a de cela 5 ans. Elle avait entre 1 et demi, 2 ans. Mais il est arrivé un moment où son ventre était vraiment ballonné, elle n'avait plus d'appétit, elle ne mangeait plus, elle ne faisait que pleurer. Malgré les bénéfices qu'on lui a donnés, en action, formation, on lui a donné, ça n'allait pas toujours. On est allé à l'hôpital, ça ne va pas toujours. Donc, maman était obligée de lui faire des tisanes. Et quand elle a pris des tisanes, elle a fait des selles bizarres. Maman a dit que c'est les déchets, peut-être c'est dû au verre. Donc, elle a été guérie comme ça. Mais un an et demi après, elle a eu la même situation. On a reçu les tisanes et puis elle est guérie. Mais actuellement, elle se porte très, très bien. Elle est en classe de CE2, je pense. Ma question est de savoir comment faut-il faire pour prévenir ce genre de maladies dues. Parce que c'est tellement au verre chez les enfants et même chez les adultes. Surtout les enfants mangent souvent en quatre pattes, ils mangent un peu de tout. Donc, voilà ma question.
Alors, ça reprend un petit peu la question de Martin tout à l'heure, hein, comment prévenir? Et peut-être une question aussi que je vous adresse, professeur Areski Isri, vous traitez, vous, avec des antiparasitaires. Est-ce qu'il y a des méthodes traditionnelles pour lutter aussi contre certains parasites qui sont peut-être plus bénins ou des usages, un petit peu des médecines de famille pour en venir à bout, ou c'est plutôt inefficace?
Oui, ça doit exister, mais j'avoue que je ne les connais pas trop, sinon...
ça dépend des régions du monde en plus.
De courge fraîche pour traiter les ténias, hein, c'est ce qu'on recommande aux femmes enceintes. Mais je crois que pour répondre à la question de Bernard, c'est un petit peu comme la question précédente. Avez-vous un diagnostic précis? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas de diagnostic précis, on ne peut pas dire que ce sont des vers, des protozoaires, des bactéries, des virus. Donc on ne sait pas trop exactement ce que c'est. La tisane qui a été faite éventuellement chez votre sœur est peut-être une tisane calmante, mais probablement pas déparasitante, si j'ose dire. Donc je crois que tout repose sur le diagnostic. Quant à la, comment éviter d'attraper des parasites comme ça, laver les crudités soigneusement ou bien les cuire, se laver les mains avant de manger et puis surtout, surtout décontaminer l'environnement, c'est-à-dire avoir le tout à l'égout, mais ça, c'est pas toujours évident.
C'est pas toujours évident, même quand on en a l'intention. Bernard, excellente journée à Cotonou. On prend un dernier auditeur au Burkina, à Ouaga, c'est Abdoulaziz. Abdoulaziz, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Abdoulaziz.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Avant de poser ma question, j'aimerais en tout cas partager en tout cas mon expérience dans ce problème-là. En fait, moi, je souffrais de maux de ventre depuis 2 ans. Mm-hmm. Cela se manifeste en tout cas par une grande transpiration quand ça débute. J'ai vraiment des vertiges, une forte fièvre et parfois les pieds qui tremblent aussi, mais il y a aussi un ballonnement et un bourdonnement du ventre. Et les gaz se dégagent à chaque fois. Maintenant, j'ai pu faire des examens et ces examens relevaient que je souffrais en tout cas d'un ulcère. Ils avaient précisé que c'est hernie ischiale et rétentissement muqueux, c'est ce qu'ils avaient dit.
Oui, mais là, c'est un petit peu compliqué, on ne vous entend pas très bien, oui. Et le rapport avec notre sujet du jour, avec les parasites intestinaux, c'est quoi précisément?
C'est, au fait, avant ça, je me déparasitais à chaque 3 mois, parce qu'ils avaient dit qu'en fait, les maux de ventre étaient dits à des parasites. Je me déparasitais à chaque 3 mois. J'ai fait ça pendant, en tout cas, une année. Malgré ça, ça continue. Après avoir fait tous ces examens, le docteur ensuite m'appelle aussi de continuer les déparasitants. Pourtant, après mon examen, mon examen, on dit que j'ai un ulcère. Les ulcères, là, j'ai eu à faire tout le traitement. Malgré ça, toujours, c'est les maux de ventre.
Donc, votre question, oui. Oui, allez-y.
Ma question était, est-ce que les parasites, là, ont-ils un lien avec l'ulcère ou ils peuvent causer en tout cas un ulcère?
Professeur Arskizri.
Oui. Ma deuxième question était, est-ce que le fait de prendre des parasites à chaque fois, est-ce que cela rend le produit inefficace pour à long terme?
Est-ce qu'il y a une résistance au produit? Donc 2 questions, le lien ulcère-parasite et résistance au traitement.
Ok. Abdoulaziz, c'est un problème compliqué que vous nous posez là. D'abord, l'ulcère, est-ce qu'il est confirmé? Est-ce que vous avez fait une fibroscopie pour aller voir cet ulcère? Si c'est vraiment un ulcère, parce que c'est peut-être pas un ulcère, c'est juste une gastrite peut-être. Maintenant, je vais répondre à vos 2 questions. Est-ce que les parasites peuvent être liés aux ulcères? Il n'y a pas de lien direct, mais il y a quand même un lien indirect, hein. À partir du moment où vous prenez des médicaments qui perturbent la flore intestinale, il est évident que vous pouvez creuser le nid d'un ulcère. Donc ça, c'est de plus en plus démontré. Il y a des parasites également qui donnent des douleurs, qui ressemblent un petit peu aux douleurs de l'ulcère. Tout à l'heure, je parlais des giardia, je disais que ça donnait une douleur sous le sternum. C'est un petit peu les symptômes de l'ulcère, hein, même si c'est différent, évidemment. Voilà, donc il peut y avoir des liens comme ça. Ensuite, est-ce que le fait de prendre les mêmes médicaments tous les 3 mois peut rendre ce médicament inefficace contre les parasites? Oui, ça c'est connu pour beaucoup d'antibiotiques, qui sont
la
parfois
résistance.
Également des antiparasitaires, mais même pour certains antiparasitaires contre les vers, ça peut arriver. Mais je ne connais pas de traitement à prendre tous les 3 mois. Tous les 6 mois, peut-être oui, notamment dans les pays chauds et humides. Vous êtes, vous, à Ouagadougou. À Ouagadougou, il n'y a pas beaucoup de filariose, sinon ça se traite comme ça. Hein. Tous les 6 mois, on donne un traitement contre les filaires.
Abdoulaziz, cette fréquence des 3 mois, c'est vous qui l'avez décidé ou c'est le médecin?
Non, c'est le médecin, c'est pas moi qui l'ai décidé.
C'est le médecin.
Je connais rien dans le domaine.
D'accord, d'accord. C'est le médecin qui l'a donc décidé. Ben, on vous remercie en tout cas. J'espère que ces éclaircissements vous ont permis justement d'y voir un petit peu mieux dans ce qui vous touche. On va poursuivre tout de suite et on va justement avoir un autre éclairage puisque l'on part tout de suite pour Abidjan.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, professeur Hervé Ménon. Vous exercez à Abidjan, mais vous êtes en ligne de Montréal où il est très très tôt. Vous êtes chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai bien réussi à tout dire. Et on a souligné justement la fréquence des infestations en fonction de certains critères, hein, géographiques, climatiques, les conditions d'hygiène qui entrent en jeu, bien sûr. Alors pour la Côte d'Ivoire, professeur Ménon, quels sont les parasites que vous traitez le plus fréquemment ?
Alors il faut dire que ici en Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement tous les helminthes. Ascaris, trichocéphales, ossures, les anguillus, les ankylostomes. Les ténias sont relativement rares parce que il y a une bonne cuisson généralement dans les habitudes alimentaires. Mais il y en a, mais c'est relativement rare. Dans toutes les enquêtes que nous avons menées, les taux étaient vraiment en dessous de 1%. Les protozoaires, quant à eux, ils sont plutôt fréquents. Nous avons des amibes. Entaubia histoltica, l'amibe pathogène est relativement rare, mais nous avons beaucoup d'amibes non pathogènes qui témoignent justement de la contamination fécale des aliments. Giardia aussi, les coccidies, ce sont des parasites opportunistes qu'on va retrouver notamment chez les personnes immunodéprimées, des personnes vivant avec le VIH, que les taux de CD4 relativement bas.
Et en termes d'évolution, professeur Hervé Ménon, est-ce qu'aujourd'hui ces parasites intestinaux sont moins fréquents ou plus fréquents qu'auparavant ?
Oui, les parasites intestinaux sont beaucoup moins fréquents. Il y a eu de grandes campagnes de traitement de masse, une sensibilisation de la population, l'accroissement du niveau de vie, un ensemble de facteurs qui ont fait qu'il y a eu aujourd'hui une baisse très significative du taux de prévalence. Il y a de cela 20, 30 ans, 40 ans, nous étions à des prévalences en zone rurale, dans les villages, de plus de 60%. Aujourd'hui, dans les villages, nous sommes autour de 20% pour ce qui est des éléments intestinaux et en ville, autour de 5%. Nous avons fait une dernière enquête à Abidjan, nous étions à peine à 2% pour les éléments intestinaux. Par contre, les amibes sont relativement plus élevées en termes de taux de prévalence. Malheureusement, ce que nous avons, c'est généralement des amibes non pathogènes. Il y a également la présence de Giardia, comme je l'ai dit aussi.
Même question pour vous, professeur Ariskizri, ici à Paris. Est-ce que vous constatez une baisse de la fréquence de ces affections parasitaires, puisque vous avez quand même une assez longue expérience ?
Ah oui, je pense qu'en France, il y a très très peu de parasites aujourd'hui intestinaux, hein. Sauf ce que je vous disais tout à l'heure, les oxyures, les giardia. Sinon, évidemment, c'est un pays de migration. On a beaucoup de migrants. Là, oui, j'en profite pour saluer le professeur Hervé Ménon, hein, qui nous apporte des bonnes choses de Côte d'Ivoire. Si j'ose dire, vous avez, entre guillemets, la chance de voir beaucoup de parasites.
Hélas pour les gens, hein, on voit bien que c'est le spécialiste qui parle. Professeur Hervé Ménon, est-ce que vous diriez qu'en général, les patients infestés arrivent un petit peu trop tard avant d'aller consulter ?
Alors, le problème avec les éléments intestinaux, c'est que l'apparition des symptômes vont se faire lorsque vous aurez une charge parasitaire relativement élevée ou lorsque vous allez avoir quelques troubles. Donc, ce n'est pas évident d'avoir une précocité dans le diagnostic.
Et justement, pour faire ce diagnostic, excusez-moi, professeur, on disait tout à l'heure avec le professeur Isri à quel point cet examen des selles était important pour précisément identifier le parasite. Est-ce que c'est quelque chose d'accessible aujourd'hui en Côte d'Ivoire et je dirais même dans la plupart des régions ivoiriennes ?
Le diagnostic est accessible. Je dois reconnaître que malheureusement, vous avez des services de parasitologie dans les centres hospitaliers universitaires. Dans les centres régionaux, vous avez des laboratoires, mais pas de laboratoires de parasitologie typiques. Ils pourront faire un examen de sel, mais ça sera simplement un examen direct. L'examen direct ne permet pas de pouvoir mettre en évidence tous les parasites présents dans la selle. Il faut aller un peu plus loin, faire une technique de concentration qui va permettre de mettre dans un petit volume tous les parasites contenus dans la selle. Et c'est ce qui manque. Mais dans les centres hospitaliers universitaires, vous avez l'accessibilité à cette méthode de recherche de parasites qui est d'ailleurs très, très efficace.
Et en matière de recherche, professeur Hervé Ménand, où en est l'état des connaissances, en particulier dans votre pays, la Côte d'Ivoire, et y compris dans une recherche très concrète qui est liée à la question précédente, pour préciser ce diagnostic?
Alors, c'est un axe très important de recherche des éléments intestinaux dans notre laboratoire. Nous avons réalisé plusieurs études et beaucoup publié sur cette thématique. Nous avons réalisé notamment la cartographie des éléments intestinaux en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, les prévalences des éléments qu'il y a. Et de façon régulière, nous les mettons à jour. Cela est très important parce que pour pouvoir faire les campagnes métaparasitaires de masse, il nous faut voir le type d'élément pour pouvoir voir s'il faut donner un seul comprimé de 400 mg d'albendazole ou donner cela sur trois jours. Nous avons également fait la mise au point de méthodes de diagnostic des parasites dans les selles, méthode plus facile, moins chère et très efficace, notamment pour ce qui est des larves d'anguillules. Vous savez, la méthode initiale était la méthode de Baeman avec une verrerie, avec tout un dispositif relativement lourd. Et nous avons rendu cela très simple, très facile, avec simplement des boîtes d'eau, des bouteilles d'eau minérale. Mmh. Nous avons également participé à des essais thérapeutiques pour l'évaluation des nouvelles molécules en combinaison, pour le traitement de l'amigas, par exemple. Et puis, nous avons mené des enquêtes sur l'influence des conditions socio-économiques sur la survenue des infections, ce qui a permis de montrer de façon très précise le rôle de l'éducation et la croissance du niveau de vie dans le projet d'élimination des parasites intestinaux.
Sensibilisation essentielle, professeur Isri, vous vouliez réagir?
Oui, j'ai travaillé aussi un petit peu en Afrique occidentale. Et j'ai été notamment voir avec mon ami le professeur Dieng au Sénégal. Nous avons fait quelques centaines d'examens parasitologiques des selles, il n'y avait pas du tout de vers. Et en fait, au Sénégal, ils font un traitement tous les 6 mois par ivermectine. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce traitement systématique, notamment dans les écoles?
Professeur Ménand.
Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons un traitement systématique dans les écoles avec de l'albendazole. Il y a eu une campagne pour le traitement, je vais dire la prévention, de la filario de Bancroft, donc où je reviens à Bancroft, avec l'ivermectine associée à l'albendazole. Mais évidemment, ça ciblait de façon très très précise, on va dire, la filariose lymphatique. Et là, l'albendazole, c'était justement pour pouvoir éliminer tout ce qu'il y avait comme nématodes intestinaux.
Merci beaucoup.
Nous n'avons pas eu l'occasion, de poursuivre cette campagne. De la poursuivre, mais je peux dire que l'année dernière déjà, nous en avons eu une, et il y aura éventuellement d'autres financements au niveau du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive.
Merci beaucoup, professeur Hervé Ménand. Je rappelle que vous êtes également vice-président de la Société africaine de parasitologie.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Une dernière question pour conclure, professeur Isri. Lorsque l'OMS recommande une vermifugation non seulement périodique, mais aussi à grande échelle, est-ce qu'il y a consensus à ce sujet?
En tout cas, les Français l'appliquent. Si on regarde certaines îles, par exemple à Tahiti, ça marche. Mais c'est surtout pour traiter la filariose lymphatique, comme le disait le professeur Hervé Ménand. C'est essentiellement
maladie
ça.
Maladie tropicale négligée.
C'est une maladie tropicale négligée, parfois elle est handicapante, on va dire.
Merci beaucoup. On aura encore beaucoup de choses à dire sur ces fameux parasites intestinaux. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, professeur Isri. J'appelle
Merci
que vous,
vous
êtes chef du service de parasitologie mycologie de l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Priorité Santé sur RFI.
Un rendez-vous pour parler neurologie. L'Association sénégalaise de neurologie conclut aujourd'hui ses 2 journées scientifiques consacrées à cette spécialité. Thématique retenue, neurologie pédiatrique. Pour en parler avec nous, on retrouve au Sénégal le docteur Mariem Soda Diopsen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes neurologue, épileptologue, neurophysiologiste à l'hôpital de Fan à Dakar, également secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie. Neurologie et pédiatrie. Alors, quels types d'affections neurologiques sont mises en avant lors de ces journées scientifiques?
Bonjour Caroline. Alors,
Nos journées commencent effectivement le 27, comme vous l'avez dit. Mmh. Et le thème général, c'est la neurologie pédiatrique, enjeux et perspectives. Mais essentiellement, seront discutées au cours de ces journées les pathologies neurovasculaires chez l'enfant, les pathologies inflammatoires et auto-immunes. Nous aurons aussi une session sur le handicap, une session sur l'épilepsie de l'enfant et ensuite les pathologies neurologiques pédiatriques générales seront discutées.
Alors prendre en charge les enfants atteints de ces affections bien spécifiques avec un constat, c'est que pour cette spécialité dans la spécialité, hein, traiter ces jeunes patients, eh bien le Sénégal comme la région subsaharienne en général manque de bras, manque de ressources humaines.
Effectivement. Au Sénégal, on a un professeur titulaire agrégé de neurologie qui est spécialisé en neurologie pédiatrique et qui est juste assisté d'un maître de conférence qui est également aussi spécialisé en neuropédiatrie. Et donc, face à ce constat, le service de neurologie a mis en place une formation en neurologie pédiatrique depuis l'année dernière. C'est un diplôme universitaire qui va durer 2 ans et nous aurons la première promotion cette année à la fin de l'année académique en cours.
Vous êtes également secrétaire général, docteur Soda Diopsen, de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, épilepsie pathologie centrale dans cette spécialité qu'est la neurologie. Il en est question lors de ces journées. Sous quel aspect précis ?
Alors, tous les aspects concernant les épilepsies seront abordés. Il y aura la session durant les journées portera sur les aspects cliniques, étiologiques et bien sûr la prise en charge des patients épileptiques. Mais il y aura en fin de congrès 2 à 4 jours consacrés à la neurophysiologie clinique de l'enfant. C'est-à-dire avec une journée consacrée à l'électroencéphalographie qui, on le sait, est faire de moyens diagnostiques essentiels pour ces épilepsies de l'enfant. Donc, et ensuite, il y aura une session sur les potentiels évoqués et les électromyogrammes, mais beaucoup plus, ces 2 jours en post-congrès seront orientés sur les explorations physiologiques du système nerveux central chez l'enfant.
Avec en conclusion, docteur Soda Diopsen, l'importance du diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge, en particulier chez les enfants, pour éviter la morbidité de ces jeunes patients.
Mais bien sûr, parce que lorsque cette maladie est diagnostiquée tôt, il y a un traitement qui est très très accessible, qui ne coûte pas cher du tout, qui, administré à ces enfants, permet de stabiliser en tout cas la maladie. Et surtout, revenir sur la prévention des maladies materno-infantiles et ensuite toutes les maladies infantiles qui tournent, dont la prise en charge en prévention tourne autour de la vaccination.
Merci beaucoup, docteur Mariam Soda Diopsen. Je rappelle que vous êtes neurologue épileptologue à l'hôpital de Fann de Dakar au Sénégal. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la prépare. Ophélie Lassen, Louise Caleda, Didier Bleu, aujourd'hui Diego Tenorio. Demain, on va parler des bouleversements, des changements pour le couple après l'arrivée des enfants. Être parent et toujours amoureux, nouveaux repères, témoignages, conseils, appelez-nous 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance. RFI par